VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 juin 2017, Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, un commissariat de police a été attaqué dans le centre de Kinshasa. L'ONU s'est entendue sur une baisse de plus de 600 millions de dollars du budget des casques bleus dans le monde. En France, trois associations ont déposé une plainte visant la banque BNP Paribas pour complicité de génocide au Rwanda. Les restrictions d'entrée aux États-Unis doivent entrer en vigueur aujourd'hui, mais un grand flou règne sur leur champ d'application. Retrouvez Yacouba Ouédraogo à la fin de ce journal pour les sports et Timothée Donangmaï pour la Minute Éco. Mais d'abord le journal. République démocratique du Congo, un commissariat de police a été attaqué cet après-midi dans le centre de Kinshasa, la capitale. Des habitants ont fait état d'une forte présence des forces de sécurité à Matongé. Des tirs nourris ont été entendus pendant plus de 30 minutes. Il n'y avait pas moyen de sortir, a témoigné une habitante de ce quartier cité par l'AFP. RDC toujours, le parquet général a retiré à l'opposant Moïse Katumbi l'autorisation d'expatriation qui lui avait été accordée en 2016 pour raison médicale. C'est ce que rapportent des avocats de l'opposant. Toujours en RDC, les festivités pour le 57e anniversaire de l'indépendance n'auront pas lieu demain pour des raisons sécuritaires. Le point avec Solange Nyamulisa.
Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila, a confié à Reuters qu'il n'y aura pas de parade militaire pour des raisons de sécurité sans donner plus de précisions. Les parades ont déjà été annulées en 2012 et 2013 pendant la guerre contre les rebelles du M23. Aujourd'hui, un commissariat de police a été attaqué dans le centre de Kinshasa. Les combats avec la milice Kamuina-Nsapu dans les Kasaï centrales ont fait plus de 3000 morts. Dans le Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku dit craindre une reprise de la guerre. Des milliers de détenus s'y sont évadés, dont 4000 de la prison centrale de Kinshasa et près d'un millier de la prison de Beni. Le président Joseph Kabila est resté au pouvoir à la fin de son mandat en décembre. L'opposition l'accuse de retarder délibérément la tenue de l'élection présidentielle. Le gouvernement dit que ces retards sont liés à la lenteur des opérations d'inscription des électeurs et au déficit financier.
La présidence burundaise a foi dans le nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, Michel Kafando, tout en l'avertissant qu'un penchant pour l'opposition ne serait pas toléré. Le processus de sortie de crise est au point mort. Les autorités burundaises refusent de discuter avec l'opposition en exil qu'elles accusent d'être derrière les violences qui minent ce pays depuis 2015. En Côte d'Ivoire, l'heure est au retrait définitif de l'ONUCI après 13 ans de présence dans ce pays. La chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, fait ses adieux au président ivoirien Alassane Ouattara aujourd'hui. Centrafrique, la coordination anti-Balaka dément avoir envoyé des émissaires aux négociations de Rome. Des signataires se réclamant du groupe armé ont pourtant signé l'accord. Procès au Cameroun de trois leaders de la contestation anglophone. Après une très courte audience au tribunal militaire de Yaoundé, l'affaire est renvoyée au 27 juillet en raison de l'absence d'un des assesseurs. Félix Agbor Congo, avocat. Neba Fontem Aforteka, enseignant, et Mancho Bibixi, animateur de radio dit BBC, sont poursuivis avec 24 autres militants pour terrorisme, hostilité contre la patrie et rébellion. La BNP a-t-elle participé au financement d'armes pendant le génocide au Rwanda en 1994 ? C'est la lourde accusation de trois associations qui ont déposé à Paris une plainte inédite contre la Banque française pour complicité de crimes contre l'humanité au Rwanda. Nous y reviendrons en partie magazine de cette émission. Au Bénin, un procès très attendu s'est ouvert ce jeudi devant la cour d'assises de Cotonou concernant l'escroquerie et 10 et ses services, décrites comme le plus gros scandale financier du pays. Et sur les 20 accusés attendus devant la barre, 10 se sont présentés. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le procès sur le dossier des structures illégales de placement d'argent appelé ICC Services a démarré le mardi 27 juin et s'est limité juste à la composition de la cour. Les débats ont démarré ce jeudi. Tout porte à faire croire qu'on n'est pas à un procès de crime banal, sale comme l'avocat en nombre impressionnant, banc des accusés fournis, la grande messe sur la vérité du dossier ICC Services a déployé ses vrais attributs au petit matin de ce jour. Les accusés de ce procès ont pour la plupart la particularité de briller par leur apparence. Le confort et le luxe qu'ils affichent contrastent avec la routine quelque peu misérable qui gagne habituellement le banc des accusés. Tenu à sortir, à lui confiante, l'air rassuré, il n'avait pas vraiment l'esprit perturbé. Dans la cour du tribunal de Cotonou, des centaines de Béninois patients de connaître la fin de cette affaire qui dure depuis 7 ans. On parle de plus de 150 milliards de francs CFA appartenant à des Béninois toutes catégories socio-professionnelles confondues. Des Béninois qui ont cru qu'en déposant leur économie à ICC Services, elle le sera retournée avec des pourcentages faramineux. Au moment où le scandale avait éclaté, bien d'autorités avaient été éclaboussées, mais sans que des preuves suffisantes soient apportées pour prouver leur culpabilité. Ce procès aura pour mission de lever un coin de voile sur le mystère qui perdure. De Cotonou, qui n'est plus à donner pour VOA Afrique.
Sommet du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron se rend dimanche à Bamako où il annoncera un effort de la France pour se tenir à la force conjointe des 5 pays contre le terrorisme, indiqué l'Élysée. Rappelons que le G5 Sahel rassemble la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. 5 pays avaient décidé dans un premier sommet en février le principe de la création d'une force transfrontalière de l'ordre de 5000 hommes, qui a depuis reçu plusieurs soutiens internationaux, dont celui de l'Union africaine, de l'Union européenne, et qui a promis de débloquer 50 millions d'euros et cette semaine des Nations Unies. Au Nigeria, l'état de santé du président Muhammadu Buhari fait polémique. Le gouverneur de l'état d'Ekiti réclame sa démission 2 mois après le départ du chef de l'état pour Londres, où il est traité pour une maladie qui n'a pas été dévoilée. 4 Nigérianes ont décidé de poursuivre devant les tribunaux néerlandais le géant pétrolier Shell. Elles accusent la compagnie de complicité dans les exécutions de leur mari par l'armée nigérienne dans les années 90. Bagassikoura.
La plainte en civil a été introduite par Esther Kiobel, la veuve de Barinem Kiobel, qui a été pendue en 1995 avec l'écrivain et militant Ken Saro Wiwa et 7 autres militants. 3 autres veuves se sont jointes à cette poursuite à La Haye. Selon Amnesty International, le rapport qui devrait être déposé devant le tribunal civil accuse Shell d'avoir été complice, je cite, « lors de l'arrestation, la détention et de l'exécution illégale de 9 hommes qui ont été pendus par le gouvernement militaire dans les années 1990 ». Fin de citation. Ken Saro Wiwa, président et fondateur du mouvement pour la poursuite du peuple Ogoni, et 8 autres militants avaient été exécutés le 10 novembre 1995 après qu'un tribunal militaire les a condamnés pour le meurtre de 4 chefs traditionnels. Shell aurait aidé à l'arrestation de ces hommes qui avaient cherché à perturber pacifiquement l'exploitation du pétrole à cause de ses impacts sur la santé et l'environnement dans la région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis prévues par le décret anti-immigration de Donald Trump doivent entrer en vigueur aujourd'hui, mais un grand flou règne sur leur champ d'application. Lionel Gaïma.
C'est la protection de la nation contre l'entrée des terroristes étrangers aux États-Unis. Donald Trump l'a annoncé hier, une deuxième tentative pour son décret sur l'immigration. Après des mois de controverses, le texte entre en vigueur. Il interdit temporairement l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen, et aux réfugiés du monde entier. La mesure est censée prévenir l'arrivée des terroristes étrangers sur le sol américain. Le haut magistrat ont toutefois tempéré lundi sa portée car ce texte ne s'appliquera pas à quiconque venant de ces pays et qui pourra justifier une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis. Quelqu'un venant rendre visite à un membre de sa famille proche sera admis, tout comme le sera un étudiant inscrit dans une université américaine ou un salarié d'une entreprise locale ou encore un professeur invité à donner une conférence aux États-Unis. Cependant, plusieurs questions restent sans réponse. Comme définir la notion de raison valable? Ce flou inquiète les opposants et la Cour suprême va revenir sur le fond de ce décret en octobre prochain.
Les tweets du président américain suscitent une fois de plus une levée de boucliers. Cette fois-ci, Donald Trump s'en est pris à une présentatrice de télévision de la chaîne d'information MSNBC qui venait de le critiquer avec force. Comment se fait-il que la folle Mika, au faible QI, avec Joe le malade mental, soit venue à Mar-a-Lago trois nuits d'affilée autour du Nouvel An et ait insisté pour me rejoindre? Elle saigna abondamment à cause d'une mauvaise chirurgie esthétique au visage. J'ai dit non, a déclaré M. Trump sur Twitter. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique. Timothée Donangmaï, la Minute Éco.
Coup de gueule des détenteurs de la dette souveraine du Mozambique qui estiment qu'il ne revient pas à l'État mozambicain de garantir les prêts consentis aux entreprises d'État. Ces dettes doivent être liquidées pour assainir les finances publiques du pays et lui permettre d'accéder à de nouveaux financements, estiment les créanciers de l'État mozambicain. Lourdement endetté, le Mozambique a publié le week-end dernier les résultats d'un audit révélant des prêts de 2 milliards de dollars consentis à trois compagnies publiques mozambicaines. Le gouvernement tanzanien a introduit trois propositions de loi qui lui permettraient de renégocier les contrats des compagnies minières et d'énergie ou, au besoin, de les annuler, des mesures qui accroissent l'inquiétude des investisseurs. On ignore pour l'heure leur impact sur un projet gazier de 30 milliards de dollars ou sur le secteur minier en proie à des difficultés et qui génère 3,5% du PIB de la Tanzanie. Enfin, pédale douce de la Banque centrale marocaine qui a décidé de différer de quelques jours la première phase de sa décision de laisser flotter le cours du dirham, la monnaie nationale.
Allez, au pas de course, on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir, Yacouba.
Bonsoir, Morgane. Bonsoir à tous.
L'Allemagne ou le Mexique pour affronter le Chili en demi-finale de la Coupe des Confédérations?
Pour le moment, c'est la Mannschaft qui tient le bon bout de cette demi-finale en cours. À 5 minutes de la mi-temps, les Allemands ont bien commencé et mènent 2-0 grâce à un doublé matinal de Léon Goretzka à la 6e et à la 8e.
Abdulrazak Alfaga, champion du monde de taekwondo.
Il l'a fait, Morgan, le Nigérien de 22 ans, vice-champion olympique dans la catégorie de plus de 87 kilos, a remporté la finale aujourd'hui même en Corée du Sud. Face au Britannique Mahama Cho, Abdulrazak Alfaga a gardé son sang-froid et a battu son adversaire 9-4. Auparavant, il a dominé le redoutable Gabonais Anthony Obam en demi-finale.
On connaît les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe COSAFA.
Oui, sans surprise, dans ce tournoi d'Afrique australe, l'Angola et la Tanzanie, déjà leaders du groupe A, s'en sont tirés à bon compte dans les derniers matchs de poule. Les Malawites et les Angolais ont fait un match nul de 0-0, insuffisant pour le Malawi, dont l'aventure s'arrête en phase de poule. L'île Maurice est aussi out après son match nul 1-1 contre la Tanzanie.
Enyama et Sliti, pas dans les plans de Bielsa.
Effectivement, nommé entraîneur de Lille la saison dernière, Marcelo Bielsa a pris fonction. Logiquement, le technicien argentin est arrivé avec un nouveau projet, un projet qui écarte certains joueurs, dont Vincent Enyama et Naïm Sliti. Le gardien nigérien et l'attaquant tunisien ne vont reprendre l'entraînement que le 3 juillet prochain, soit 15 jours après le reste de l'effectif.
Et enfin, Louis Nicolin est décédé.
L'emblématique président du Montpellier Hérault Sporting Club est mort aujourd'hui même, le jour de ses 74 ans, après avoir fait un malaise dans l'après-midi. Loulou, comme on l'appelle affectueusement, est un personnage emblématique du football français. Il a créé en 1974 le club de Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault Sport Club. Il a conduit du niveau amateur jusqu'au titre de champion de France en 2012.
Merci Yagouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, de retour avec vous. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est entendu sur une baisse de plus de 600 millions de dollars du budget des casques bleus dans le monde. La mission onusienne en RDC et celle au Darfour seront affectées. Comment cette coupe budgétaire pourrait affecter la situation politique et sécuritaire en RDC? Abdourahmane Dia a posé la question à Henri-Christian Longenja, président du comité des droits de l'homme.
Aujourd'hui, la MONUSCO dans notre pays, c'est vraiment un acteur qui intervient beaucoup. Vous voyez, notre pays maintenant est en plein processus électoral et que souvent l'argument que le gouvernement donne pour ne pas organiser des élections, c'est le financement, des moyens logistiques et tout ça. Et c'est grâce à la MONUSCO qu'à certains coins du pays, parce que la RDC étant tout un petit continent, il y a des endroits vraiment inaccessibles, mais c'est grâce à la logistique faite par la MONUSCO qu'on peut accéder à certains endroits.
Mais sur le plan sécuritaire, quand on voit ce qui se passe à Beni et dans le Kassai, les tueries qui se poursuivent et souvent la MONUSCO qui est accusée de passivité, vous pensez que cette baisse aura quand même un impact puisque les tueries se poursuivent quand même?
Oui, la MONUSCO, bien sûr, nous l'accusons de passivité, c'est-à-dire dans les méthodes, parce que souvent la MONUSCO qui a des moyens fait passer d'abord les FARDC qui n'ont pas de moyens devant et la MONUSCO ne vient qu'après. Mais au moment où elle a des moyens, elle fait comme ça. Mais maintenant que si elle n'a pas assez de moyens, ça sera encore plus pire. Parce que toutes ces tueries, que ce soit à Beni, à Butembo, au Kassai, tout à l'heure au centre-ville de Kinshasa, les balles ont crépité il y a même pas une heure. Alors donc, tout ça, la présence de la MONUSCO est quand même un peu dissuasive. Quand bien même nous l'accusons de passivité, parfois au niveau des méthodes, parce que souvent, qu'est-ce que la population voudrait voir? C'est voir la MONUSCO parfois au front.
Mais on a quand même la force de réaction rapide des Nations Unies, qui est une force offensive, différente un peu du maintien de la paix. Quel est son impact sur place?
Bon, par rapport à la force des Nations Unies, l'impact n'est pas encore tellement ressenti. Parce que ce que les gens veulent, c'est quoi? Voir qu'il y a des assaillants, mais qui sont du moins repoussés par cette force. Parce que, je prends l'exemple à Beni, nous sommes arrivés une fois pour voir la situation à Beni après les massacres. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé? En arrivant dans les quartiers généraux de la MONUSCO, ils avaient tout. Mais de l'autre côté, en face, là où se trouvaient les FARDC, ils n'avaient presque rien, pas même à manger. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a une attaque comme ça, la MONUSCO demande aux FARDC de prendre les devants et elle vient après. Donc c'est là où nous les condamnons souvent.
Voilà, c'est Henri-Christian Longenja de la société civile congolaise.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
En France, trois associations ont déposé une plainte visant la banque BNP Paribas pour complicité de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité au Rwanda. Environ 25 dossiers liés au génocide de 1994 au Rwanda sont instruits en France, où se sont réfugiés plusieurs auteurs présumés. Idriss Fall a joint à Paris Marie-Laure Guissin de l'association Sherpa.
Pour des faits donc que nous qualifions de complicité de génocide, complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Vous prenez sur quoi pour avancer vos accusations?
Alors BNP aurait été la seule institution à accepter de financer 1,3 million de dollars du compte de sa cliente, la Banque nationale du Rwanda, donc la banque centrale de l'époque du génocide rwandais, alors que nous sommes en juin 1994, en plein génocide, et que l'embargo sur les armes de l'ONU a été adopté un mois plus tôt. Donc ce transfert a été fait sur le compte d'un courtier d'armes sud-africain, M. Ehlers, qui s'est ensuite rendu aux Seychelles et aurait donc acheté 80 tonnes d'armes en présence d'un colonel Hutu, le colonel Bagosora, qui depuis a été condamné pour génocide. Et s'en est suivi donc deux livraisons d'armes qui ont été acheminées au Rwanda via Goma.
Et pourquoi avoir attendu 23 ans?
Parce que il a été très compliqué de rassembler les documents et de caractériser juridiquement la plainte. Et parce qu'il nous semble important aujourd'hui en France de rappeler aux nouveaux élus la potentielle implication des institutions financières dans les zones de conflit, dans des graves crimes tels que celui-ci, et de rappeler aussi l'importance de la loi française qui vient d'être adoptée sur le devoir de vigilance des multinationales qui, précisément, appliquée aux banques, permettrait d'éviter ce type de drame, ce type d'implication des institutions financières dans de graves violations des droits humains.
Mais ce n'est pas la première fois qu'il y aura procès en France concernant le génocide au Rwanda, mais beaucoup de ces procès ne sont allés nulle part.
C'est la première fois qu'une plainte est déposée sur ce fondement contre une banque en France. La plupart des responsabilités qui ont été invoquées jusqu'ici sont invoquées à l'encontre de militaires ou d'institutions étatiques. Et pour nous, cette plainte est une première et doit rappeler qu'il ne faut pas oublier la responsabilité des acteurs privés, des investisseurs privés dans les zones de conflit.
Marie-Laure Ghislain de l'association Sherpa.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Après les violences qui ont éclaté en début de semaine à Al-Hoceima, dans le nord du Maroc, le Premier ministre Saad Idine El Othmani a exhorté la population locale à coopérer. Pour comprendre la persistance des manifestations et expliquer les raisons pour lesquelles la contestation se concentre dans la région du Rif, Edili Diko, adjoint à Casablanca, Mohamed Ziane, ancien ministre des Droits de l'Homme au Maroc et avocat du leader de la contestation.
95% des gens arrêtés ou des gens violentés appartiennent à cette région, ce qui fait que les familles des détenus, les familles des gens qui ont été violentés dans les rues animent la contestation. Des autres régions n'ont pas connu des arrestations aussi massives, a connu la région de Al-Hoceima et de Inzourin particulièrement.
À ce stade, en fait, les demandes ont évolué. Les contestataires demandent que les personnes arrêtées soient libérées et ce n'est plus de l'ordre du développement.
C'est normal. Quand nous sommes tous sortis dans la rue pour des revendications d'ordre économique et social et qu'une centaine ou quelques centaines d'entre nous sont arrêtés, on se sent solidairement obligés à exiger d'abord la libération de nos confrères, de nos amis, des activistes. Et avec nous, on fait la contestation. C'est très normal, c'est logique.
Pourquoi ces manifestations populaires continuent-elles alors que le roi a bien réprimandé ses ministres pour la non-exécution des projets de développement dans les délais qui étaient prévus?
Parce qu'il y a eu des prisonniers. S'il avait fait ça avant les arrestations, peut-être que la situation se serait calmée. On a commencé d'abord par arrêter des gens. Rien qu'à Casablanca, il y a 53 détenus avec le chef de file Nassar Zafi. Et à Al-Hoceima, il y a une centaine de personnes. C'est beaucoup trop.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique que l'État marocain ait choisi en fait d'adopter une posture aussi sécuritaire en réprimant les manifestants?
Il a fait la politique du bâton et de la carotte. D'une part, il reconnaît que les projets que Sa Majesté le Roi avait inauguré étaient des projets fictifs et peut-être ne seraient même pas réalisables parce qu'il y a des problèmes d'ordre juridique sur le foncier ou de financement ou de rentabilité. Quand même, c'est un peu grossier de mettre le chef de l'État dans cette situation. Et d'un autre côté, c'est le bâton, c'est-à-dire j'arrête, je frappe, je cogne et je condamne les manifestants étant des jeunes entre 18 et moins de 30 ans.
Vous êtes aussi l'avocat de Nasser Zezafi, qui est en fait le chef de file de cette contestation. Quelle est la situation actuellement pour lui ?
Les conditions de détention s'améliorent. Hier, il a reçu le droit d'avoir une télévision dans sa cellule. Et puis, on lui a ouvert la bibliothèque de la prison. J'espère que bientôt il aura le téléphone pour pouvoir communiquer avec sa famille et les siens. Mais il est poursuivi à peu près pour tous les articles du code pénal, à l'exception de l'adultère, parce qu'il n'est pas marié.
Mohamed Ziane, ancien ministre des Droits de l'Homme au Maroc et avocat du leader de la contestation.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, les mesures migratoires du président Donald Trump visant les ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans entrent en vigueur à minuit. Elles avaient été bloquées par diverses instances judiciaires, mais la Cour suprême a décidé qu'elles peuvent être partiellement appliquées en attendant qu'elles statuent en octobre sur leur constitutionnalité. Pour un éclairage, Timothée Donongmaï a contacté à Silver Spring, dans l'état du Maryland, maître Joseph Fa, avocat spécialiste de l'immigration.
Par rapport à la recevabilité des dossiers au niveau de la Cour suprême, il faudrait que les juges de la Cour suprême acceptent. Ce n'est pas de droit, il faudrait qu'ils acceptent parce qu'on appelle le séjour ou accepter du statut sur l'affaire. Et effectivement, ils ont accepté du statut sur l'affaire. Et en acceptant le statut sur l'affaire, il y a une partie du travel ban qui va entrer désormais en vigueur à partir de cette nuit. Et lorsque la Cour va reprendre session en octobre, ils vont statuer donc sur le reste de la constitutionnalité de ce travel ban par rapport à tout ce qui a été décidé par les cours inférieurs.
Alors vous l'avez dit, cette mesure entre en vigueur partiellement. Qu'est-ce qui va changer ?
Ce qui fait que on a 6 pays du Moyen-Orient, et les 6 pays arabes, la Libye, je pense la Libye, l'Iran, le Yémen, la Somalie, et je pense qu'il y a la Syrie également. Nous avons ces 6 pays-là qui seront désormais, pas qu'ils ne doivent pas avoir affaire aux États-Unis, ceux des membres de la famille, je parle de la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, ceux qui ont des connexions aux États-Unis auront toujours la possibilité d'entrer aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on va interdire à tous ceux-là qui viennent de ce pays de façon automatique d'entrer aux États-Unis, mais il va falloir qu'ils justifient qu'ils ont une connexion aux États-Unis. Si c'est pour la toute première fois que vous entendez parler des États-Unis et vous venez de l'un de ces pays, ce serait difficile pour vous pour avoir un visa durant la durée des 3 mois, parce que je pense que d'ici à octobre, c'est juste une question de quelques mois.
Alors, octobre est une importante échéance dans ce processus.
Oui, seulement en octobre, non seulement la mesure s'était faite pour quelques mois, ce sera expiré, mais également en octobre, la Cour suprême va statuer sur la constitutionnalité de cette décision. Alors, ça ne veut pas dire que parce que la mesure a été en vigueur, que c'est forcément constitutionnel, parce que lorsque la Cour suprême statue dessus, elle peut revenir par rapport à la décision, pour dire effectivement c'était contre la Constitution. Ça veut dire que ce genre de, pour empêcher qu'on ait ce genre de reprise ou bien ce genre de loi pour le futur, il va falloir effectivement que la Cour suprême dise si ce genre d'action par le président de la République est constitutionnel.
Maître Joseph Fa, avocat spécialiste de l'immigration, nous parlait de Silver Spring dans l'état du Maryland.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. 2633. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde ce soir, Michel Joseph, Tianwan à la console, présentation Morgane Diriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.